Bonsoir à chacun et que le nom du Seigneur soit béni. Oui, c'est une grâce de se retrouver, d'autant plus que l'on peut expérimenter la vie avec Dieu, la foi avec Dieu. Est-ce que vous avez envie de faire des expériences nouvelles? Parce qu'il y a expérience et expérience. Il y a des expériences qui sont superficielles et inutiles, et puis il y a les expériences qui correspondent à la volonté du Seigneur. Nous allons faire une lecture dans Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 35. Si vous lisez ce texte à partir de ce verset, puis tout le chapitre 11, vous voyez que des hommes, des femmes ont expérimenté la foi. Mais vraiment, c'était la volonté de Dieu et ils ont fait des expériences qui les a fortifiées à tel point que Dieu veut que nous sachions ce qu'ils ont vécu pour que aussi nous fassions des expériences. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer à côté d'expériences que Dieu a voulu? Ouais, on peut passer. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et puis il nous est parlé de Noé, et puis il nous est parlé d'Abraham, de Sarah, oui, de temps en temps, il nous est parlé de certaines femmes, etc., etc., d'hommes, de femmes qui ont fait de belles expériences avec Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des expériences que l'on peut vouloir faire et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et il y a des expériences que Dieu voudrait que nous fassions, et parfois nous ne les faisons pas. Vous savez qu'un jour, Jésus a parlé qu'il fallait prier, qu'il fallait toujours prier, ne pas se relâcher. Il donne une parabole, et il termine cette parabole en posant une question. En plus, il fait des promesses extraordinaires, qu'il fera justice à ses élus, ceux qui crient jour et nuit. Il dit, voilà, je leur ferai justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose une question. Cette question, à nous, bien sûr, qu'elle nous interpelle. Est-ce qu'il y a la foi dans mon cœur? Vous avez dit, oui, je crois en Dieu, oui, je vais à l'église, oui, je lis la Bible. Mais Dieu pourrait nous dire, ce n'est pas ça que je te demande. Est-ce que vraiment tu as la foi? Est-ce que tu veux vivre des choses qui ont été préparées? En plus, aujourd'hui, peut-être ici, on n'y fait pas trop attention, mais il y a des séminaires partout qui sont organisés sur la foi, des sujets ici. Et il y a des gens qui font des milliers de kilomètres en avion dès qu'il y a un séminaire sur la prospérité, la foi et la puissance, la foi et la guérison. Alors dès qu'il y a de ces séminaires organisés un petit peu partout, il y a des chrétiens qui font des milliers de kilomètres pour assister à ces séminaires. Il y a des mouvements de foi, des enseignants de foi. Enfin, quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe sur la foi, c'est un peu impressionnant. Il y a même des églises de foi, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Et pourtant, quand vous regardez ce qui est enseigné dans ces séminaires, c'est les intérêts personnels, comment réussir personnellement, comment nos intérêts personnels peuvent être pourvus. J'ai même lu ceci. La foi, c'est lui demander ce que vous rêvez d'avoir. Si vous pouvez rêver, vous pouvez obtenir dans des séminaires faits chez nous. Je vous le redis. La foi, c'est lui demander ce que vous rêvez d'avoir. Si vous pouvez rêver, vous pouvez
obtenir. Je vous assure qu'on est très loin de ce qu'on vient de lire. Et ça part sur des textes qui, d'après vous, quel texte a été utilisé pour voilà. Or, à celui qui peut vous donner infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez dans les Éphésiens chapitre 2, 3. Éphésiens chapitre 3, mais c'est le résultat de toute une démarche par rapport à celui qui s'approche de Dieu, qui obéit à Dieu, qui remplit du Saint-Esprit. Alors, il est certain que dans ce cadre-là, celui qui vit la vie de l'Esprit peut être amené à faire des expériences où il va obtenir ce qu'il demande, parce que ce qu'il va demander correspondra de toute façon à la volonté du Seigneur et non pas à des rêves complètement bizarres. Et la foi qui est basée que sur des expériences matérielles n'est pas la véritable foi. Dieu veut que nous ayons la foi. Le peu que nous avons lu vous montre une chose, que Dieu ne veut pas que nous abandonnions l'assurance, Dieu ne veut pas que nous abandonnions notre espérance, Dieu veut que nous ayons de la foi. Pourquoi ? Parce que le juste, il vit par la foi. Alors, cette foi, elle est agréable à Dieu, et je crois que si le Seigneur permet que nous nous rassemblions ce soir, c'est aussi pour nous fortifier, nous dire, mais c'est vrai, cette foi qu'il m'a donnée. Parce que, est-ce que Dieu vous a donné la foi ? Tiens, il y a une chanteuse en France qui chante « Dieu m'a donné la foi ». Moi, une fois j'ai entendu ça, j'ai dit, tiens, je vais regarder les paroles. Bon, les paroles, ce n'est pas Hébreux 11, je vous le dis. Mais vous voyez, voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est Dieu m'a donné la foi, c'est très rythmé, mais je peux vous dire qu'on est loin de cette foi dont parle la parole de Dieu. Bien sûr que nous voulons faire des expériences. Bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, il y a des gens qui ne font plus rien, oui, moi, je n'ai pas la foi. Est-ce que Dieu a donné une mesure de foi à tout le monde ? Est-ce que c'est écrit ? Où c'est écrit ? Dans la Bible. Il est bien ce jeune, il est bien. C'est dans la Bible, c'est écrit. Dans Romains, c'est écrit que Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Alors, c'est vrai qu'il y a cette liste, Romains chapitre 11, cette liste, elle est quand même intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà méditée, ça vaut la peine peut-être de la reméditer, de la relire, de prier, de dire, mais Seigneur, ces hommes, ces femmes qui ont fait des expériences extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà dans ce chapitre par rapport au contexte, à ce qu'on a lu ? Nous voyons des hommes et des femmes qui soupiraient après la communion avec Dieu. Premièrement, une foi qui est agréable à Dieu, c'est une foi qui dépend d'une véritable communion avec Dieu. Et comme on le voyait avec les frères tout à l'heure, ce n'est pas une question de désirer, c'est une question de vouloir. Et quand vous voyez dans la parole de Dieu les hommes qui ont obtenu une véritable communion avec Dieu, ce n'est pas des gens qui disent « Oh, j'aimerais que Dieu fasse ceci. Oh, j'aimerais bien passer davantage de temps dans la communion avec Dieu. Oh, j'aimerais... » Non, non, on n'est pas là-dedans. Tout ça, c'est très superficiel. On est avec des hommes et avec des femmes qui ont su donner du temps à Dieu pour obtenir la bénédiction. Et dans le psaume 63, par exemple, gardez la page d'Hébreux chapitre 11, mais dans le psaume 63, vous avez une belle définition de ce que je suis en train de vous dire, à savoir des hommes qui malgré le fait, qui, comme nous le voyons là dans le psaume 63, il est dans le désert, ah ce désert dont on parle souvent hein, dans nos réunions, le désert, est-ce que ça vous intéresse le désert ? De toute façon, même si ça ne vous intéresse pas, ça fait partie de l'école que Dieu permet. Voilà, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. On voit un homme qui a soif de Dieu. Et Hébreux chapitre 11 est rempli d'hommes et de femmes qui, quelle que soit la bénédiction ou le désert, avaient soif d'une véritable communion avec Dieu. Quand vous voyez par exemple Moïse, cet homme qui avait soif de Dieu, il fait partie dans la liste des héros de la foi. Quand vous voyez à côté le peuple qui murmurait, qui se plaignait, qui râlait, qui regrettait l'Égypte, quand un chrétien commence à envier le monde qu'il a délaissé, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon signe. Quand vous entendez, oui, mais quand même, j'ai lu un livre dernièrement, j'en ai honte, c'est un pasteur qui écrit ceci, vous êtes bien assis, qui regrette. Je vous assure que c'est vrai. Il regrette ce temps où il allait dans les cafés, un pasteur, parce qu'il trouve que dans les cafés, avec les potes et les copains, il y avait une véritable communion fraternelle. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, moi. Mais pour écrire des choses pareilles, laissez-moi vous dire que là aussi, et puis après il y a tout un enseignement qui fait une chose, ça détourne les gens de Dieu. Voyez un petit peu ces pièges des faux prophètes et des faux docteurs que nous voyons aujourd'hui. Quand on regrette le monde, ça ne va pas mener une véritable foi, croyez-moi. Je crois qu'on est dans le monde, mais on fait la part des choses entre les choses du monde et les choses du royaume de Dieu. Alors, on a lu deux exemples, le témoignage d'Abel, le témoignage d'Enoch. Alors, c'est important ça, parce qu'on a étudié ça l'autre jour avec les frères un petit peu, ces hommes de foi qui ont fait certaines choses, qui les ont bénis, et en même temps qui ont béni les autres. Car je crois que quand on est béni, ça doit nous amener à être en bénédiction aux autres. Est-ce que ça vous intéresse d'être en bénédiction aux autres? Si vous devez vous marier, par exemple, est-ce que vous voulez être en bénédiction à votre femme? Ou vice-versa? Oui? Eh oui. Mais est-ce que c'est ça la vie? La vie, c'est ça. C'est qu'on doit être des sources de bénédiction. Le témoignage d'Abel. Alors, on revient à Hébreux chapitre 11. La Bible nous parle d'un sacrifice. Il a fait un sacrifice. Dieu approuve ses offrandes. Alors quand vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez qu'il y a eu, des sacrifices, il y a eu des graisses, il y a eu qui ont été offertes à Dieu, dont il y a des choses qui sont montées vers Dieu, il y a des choses qui ont été brûlées, qui sont montées en offrande, et ça a plu à Dieu. Vous savez qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Par exemple, quand il est parlé de Caïn, ça n'a pas beaucoup plu au Seigneur. Quand il est parlé de Caïn dans la Bible, c'est toujours d'une façon négative, et pourtant il a fait une offrande lui aussi. Il l'a faite à Dieu, et Caïn, il est dit, quand il est parlé ailleurs de Caïn, il a dit « Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn ». Caïn représente ceux qui veulent obtenir le salut par leurs œuvres. Malheur à ces hommes-là. Parce que nous, aujourd'hui, on est plutôt mitigés. Oui, après tout, dans le mouvement de Pentecôte, on parle du salut par la grâce et par la foi. Dans certains mouvements, c'est le salut par les œuvres. On ne va pas juger. Écoutez, la Bible dit « Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn ». Ce n'est pas une question de comparer les dénominations, c'est une question d'évaluer des véritables comportements. Lorsque l'on veut aller au ciel par les œuvres, eh bien, la Bible dit que c'est du malheur. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Et c'est important, la vraie foi, elle commence par s'occuper de son propre salut. Il y a une liste interminable, Hébreux chapitre 11, de tous ces hommes et femmes qui ont fait mouvoir le bras de Dieu, mais ça commence avec un homme qui, justement, a voulu d'abord expliquer que la première des choses qui était importante, c'était le sacrifice de la foi. Abel a offert, parce que pour offrir un sacrifice d'animal, il fallait construire un autel. Donc ça représente déjà la communion avec Dieu. Cette graisse qui est brûlée et qui monte, qui est expliquée dans le Lévitique comme une agréable odeur à l'Éternel, ça nous parle de la prière. Ces moments de qualité où l'on se retrouve seul devant Dieu, où on est en communion avec le Seigneur. Est-ce que vous aimez vous retrouver seul devant Dieu, tout seul, voilà, dans le silence peut-être. Ce n'est pas une question de parler, c'est une question de se retrouver dans la parole, de méditer un texte, comme celui que l'on vient de lire, et de penser à Dieu. Dieu aime ces moments où on se retrouve seul, il y a quelque chose qui monte vers lui. Avant c'était de l'encens, maintenant c'est notre cœur. Vous avez vu dans le silence comment on peut parler. Je lisais avant-hier, « Chantez dans vos cœurs ». Non, vous voyez, quand on chante dans son cœur, personne ne vous voit, personne ne sait que vous chantez. Peut-être c'est mieux, même, mais ça monte vers Dieu. En tous les cas, ça monte, il y a quelque chose qui monte vers Dieu. Puisqu'il dit « Chantez dans vos cœurs des louanges du Seigneur ». Donc, vous voyez que ça représente cette communion avec Dieu. Dieu aime ça. Quand vous êtes seul devant Dieu, que vous le faites de tout votre cœur, ça représente que vous offrez ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Ce sont des moments précieux, personne ne vous voit, ça se passe dans le lieu secret. Jésus en parle, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui voit dans le secret, dont il n'y a que Dieu qui le voit, te le rendra. Ce sont pourquoi Dieu le rendra? Eh bien parce que c'est des moments qui plaisent à Dieu. Ce moment où on se retrouve seul et on répand son cœur devant Dieu. Comment Abel a-t-il eu cette foi? Pourquoi Abel a-t-il eu cette foi? Pourquoi son frère n'a-t-il pas eu la même foi? C'est une question qu'on peut se poser, ça. On pourrait se dire, tiens, mais c'est bizarre, dans la même église, par exemple, on devrait tous avoir, comme on a le même enseignement, on devrait tous avoir les mêmes comportements. Moi, j'ai vu 12 pasteurs, il y en a un qui s'est suicidé, il y en a un qui a écrit l'évangile de Jean et la révélation de l'Apocalypse, ils avaient le même pasteur. Vous avez vu la différence entre ces deux hommes? Quand on y réfléchit, c'était deux pasteurs. Est-ce qu'il y a une différence entre Jean et Judas? Oui, pourtant, ils avaient le même pasteur. Abel et Caïn avaient le même père, la même mère. Ils avaient les parents qui avaient fait des expériences extraordinaires. Et ils devaient certainement, de temps en temps, dire « Mais papa, explique-moi ce que tu as vécu. » Parce que quand même, ils ont dû, vu les siècles qu'ils vivaient, ils ont dû partager ces choses. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Et Abel, il voulait savoir. Et Caïn, lui, ne s'intéressait pas certainement. Et voyez, la vraie foi, elle commence quand on s'intéresse aux choses que Dieu a faites. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On s'intéresse aux choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Abel voulait savoir ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Et ce sacrifice qu'il a offert le ramenait au sacrifice que Dieu avait fait pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Et voilà comment on construit une véritable foi, en lisant la parole de Dieu. Parce que moi, je crois vraiment de tout mon cœur que quelqu'un qui lit, même s'il n'est pas très instruit, qui lit « ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés », il n'y a pas besoin de 3000 prédications pour expliquer ce verset. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, on voit un homme, Abel, qui a dû questionner son père, sa mère, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Vous voyez qu'Abel discutait avec son père? Est-ce qu'il discutait? Est-ce que vous discutez, vous, avec les gens de votre famille? Est-ce que vous aimez discuter avec les gens de votre famille? Est-ce que vous aimez discuter avec votre maman? Tiens, Prune, est-ce que vous aimez discuter avec votre maman? Madame, est-ce que vous aimez discuter avec votre fille? Vous voyez? Bon, mais c'est ça. Et la communion, vous voyez, quand on aime discuter avec quelqu'un, c'est la preuve qu'on est bien avec lui, qu'on se sent bien avec lui. Donc, Caïn représente ces gens qui, malgré le fait qu'ils ont eu un papa, parce que bon, moi je trouve que quand même, il avait un super papa, Caïn, non? Il avait des choses à raconter quand même, non? Et moi, je trouve qu'il y avait de quoi discuter. Hein, mais voyez, on n'est pas soucieux de la présence de Dieu. Et le résultat, c'est qu'on ne fait que des choix qui vont nous perdre. Heureux l'homme qui aime la communion avec le Seigneur, qui aime se retrouver seul, ça a été agréable à Dieu. Et on pourrait énormément discuter du sacrifice de la foi. Voilà, il y a quelque chose qui plaît à Dieu. Quand notre foi est basée sur un sacrifice, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on est là, tous heureux de chanter des cantiques qui rappellent ce que Jésus a fait pour nous. La foi d'Enoch. Lui aussi, il a fait un choix. Quel choix il a fait? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Il a fait le choix de marcher avec Dieu. Pourtant, je vous assure qu'à cette époque-là, il ne faisait pas bon marcher avec Dieu. Parce que vous allez me dire, oui, pourtant, vous voyez, on a l'impression qu'il y a tellement longtemps que la vie était belle sur terre. La Bible dit que la terre était remplie de méchanceté. Vous rendez compte? Ça fait pitié. Donc, il est mort à 365 ans et il nous a dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Donc à 65 ans, il a pris la décision de marcher avec Dieu. C'est une décision, on parlait tout à l'heure de l'importance de savoir prendre des résolutions. Il a décidé de marcher avec Dieu et ça a plu à Dieu. Ça a tellement plu à Dieu que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a enlevé. Vous vous rendez compte? Ça a tellement plu à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'ai lu des trucs dessus, incroyable qu'il avait tellement envie d'être en communion avec Dieu que Dieu l'a enlevé pour qu'il puisse communiquer complètement avec lui. Enfin, j'ai lu tout un tas de choses sur la communion de Enoch avec le Seigneur. Mais en fait, il a rien fait de particulier, cet homme. Quand vous regardez Enoch, il y a des hommes, ils ont fait des miracles. Quand vous regardez Élisée, par exemple. Bon, Élisée, Élie, vous voyez des hommes quand même, ils faisaient des miracles. Enoch, est-ce qu'il a fait des miracles, Enoch? Non, je ne vois pas qu'il a fait de miracles. Il n'a rien fait de particulier. Il a fait quelque chose qui plaisait à Dieu. Il marchait avec lui. Ça, je ne sais pas si ça vous encourage, mais moi je trouve que c'est très enthousiasmant. Cet homme était agréable à Dieu parce qu'il avait pris la décision de marcher avec lui. Voilà ce qui plaisait à Dieu. Je vous dis, il n'a rien vu de particulier à part la méchanceté des hommes. Il a décidé d'avoir une véritable foi qui était basée sur cette véritable communion avec Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez être enlevé ou vous voulez partir dans la gloire, eh bien, quoi que ce soit que vous fassiez, quoi que ce soit que Dieu veut que vous fassiez, parce que Dieu peut vous utiliser pour faire des miracles, Dieu peut ne pas vous utiliser pour faire des miracles, ça ne remet pas du tout en question votre piété ou votre spiritualité. Ce qui était agréable à Dieu, c'est qu'il marche avec lui. Alors moi, je veux vous encourager, marchez avec le Seigneur. Quoi que ce soit que Dieu vous demandera de faire, ayez une véritable communion avec le Seigneur. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Il y a des gens, ils sont tout le temps triturés parce que oh, j'ai rien fait. Mais ce qui est important, c'est que vous marchiez avec Dieu. Quoi que ce soit que vous faites, ne vous affolez pas, ah, mais moi j'aurais aimé être si. Moi j'ai entendu des gens, oh, moi j'aurais été heureux si Dieu m'avait appelé pasteur. Vous croyez que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'on est heureux parce qu'on est pasteur ou on est heureux parce qu'on marche avec Dieu? Vous voyez comment on peut se tromper. Et c'est ça l'erreur. Et quand vous réfléchissez, quand vous lisez ces textes, mais qu'est-ce qu'il a fait Enoch? Il n'a rien fait. Si, il a marché avec Dieu. Nous, on pourrait dire, ah oui, mais il a fait ceci, il a fait cela, vous vous rendez compte, quand même. Ah, c'est pour ça qu'il plaisait à Dieu. Non, il marchait fidèlement avec Dieu, ce qui était agréable à Dieu. Et la Bible nous demande de chercher à savoir ce qui est agréable à Dieu. Si vous étiez là dimanche matin, on a vu ce qui était bon pour l'homme. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu? Parce que les hommes, ils cherchent, ils disent, bon, vous vous rappelez ce qu'on a vu? Dieu veut que l'on mène une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Ce sont des choses qui sont bonnes. Dieu aime que l'on marche dans la paix, dans la tranquillité, dans la piété et dans l'honnêteté. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et Dieu veut que l'on cherche ce qui est agréable. Vous voulez être heureux? Marchez avec le Seigneur. Marchez avec lui. Quoi que ce soit que les gens fassent, quoi que ce soit que les gens disent, si les gens sont méchants, parce que quand vous regardez du temps d'Enoch, je vous dis du temps de Noé, la méchanceté était grande sur la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est écrit que du temps des Noirs, du temps de... C'est là qu'on commença à invoquer l'Éternel. Il y avait même de la religion. Mais vous voyez, ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'ils sont tous morts par le déluge. Vous voyez, c'est pas la religion qui sauve. C'est là, moi, ce verset, un jour, je me disais, c'est là que les hommes commencèrent à invoquer l'Éternel. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? À rien. Il y a des gens qui prient, ça ne sert à rien. Et là, vous voyez des hommes, mais qui priaient, à qui Dieu s'est révélé. Noé, il priait. Est-ce que c'est extraordinaire ce qu'a fait Noé? Hein? Bon, Enoch, il a marché. Mais Noé, lui, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Ne commencez pas à construire demain un bateau, parce que, tiens, moi Noé, ça m'a plu l'histoire de Noé. Tiens, mais je vais construire une arche. Il y a un gars en Belgique, qui, je ne sais pas si vous avez vu, qui construit une arche. Bon, après, bon, c'est peut-être commercial, je ne sais rien. Mais n'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Ne faites pas les choses par mimétisme. Soyez vous-même. Le Seigneur peut vous mettre à cœur de faire certaines choses. Cette foi qui est agréable à Dieu, c'est une foi, c'est vrai, c'est une foi qui obéit. On n'a pas lu l'histoire de Noé, mais c'est une foi qui obéit. Et je voudrais terminer avec ce verset. On pourrait le lire dans Genèse, au chapitre 6 et au verset 9. On n'en a pas parlé de Noé parce qu'on n'a pas le temps. Genèse chapitre 6. Genèse. Vous voyez donc au verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et c'est ces trois mots que j'aimerais que vous reteniez. Il marchait avec Dieu dans son temps. Est-ce que vous dites, ah, moi, si j'avais vécu à un autre temps, ah, moi, si j'avais vécu à telle époque, je marcherais avec Dieu. On l'entend, ça. Ah, moi, si j'avais vécu du temps de Jésus, je suis sûr que j'aurais été un chrétien. Ah, moi, si Dieu m'avait donné une autre femme, je l'ai entendu, ça. Si Dieu m'avait donné une femme spirituelle, moi, je serais un vrai chrétien. Alors, enfin, tout... écoutez, si vous ne marchez pas avec Dieu dans la configuration dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous ne marcheriez pas avec Dieu de toute façon. Je crois qu'on choisit de marcher avec Dieu dans son temps. Et après ce verset que je vous ai cité, on peut le lire puisque c'est pas loin, voyez, dans Genèse au chapitre 4 et au verset 26, la fin quand il est dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voyez, invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce que c'est bien d'invoquer le nom du Seigneur? Est-ce que c'est bien? Mais voyez, vous avez la preuve que ça leur a servi à rien. Invoquer Dieu, c'est bien. Invoquer le nom de Jésus, c'est bien. Regarder à la croix, c'est merveilleux. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de marcher avec lui, c'est de céder devant le sacrifice de la croix, c'est de faire comme Enoch a fait, oui, je vais marcher avec toi. Ce soir, tu me montres que la foi qui te plaît, c'est pas la foi qui fait qu'on va avoir nos rêves exaucés, c'est je marche avec toi. Ta parole dit qu'il faut avoir une véritable piété. Eh bien, je veux une véritable piété. Je veux être sérieux devant le sacrifice du calvaire. Est-ce que c'est important le sacrifice du calvaire ? Mardi, il y a une jeune fille qui est venue pour la première fois et la personne me disait pendant qu'on chantait ses cantiques sur la croix, cette personne retenait ses larmes. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre parler du sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau que de voir des hommes qui, malgré les générations corrompues, ont marché avec Dieu. Il n'y a rien de plus beau de voir que, malgré la méchanceté, des hommes ont pu construire pour Dieu. Mais tout ça, ça se fait par la foi. Et je veux que nous comprenions une chose, c'est que ce qui est écrit, il faut le croire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on commence par la foi. Dieu pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Ce soir, est-ce qu'il y a de la foi dans votre cœur ? Oui, je vais marcher avec toi, Seigneur. Oui, tu me demanderas ça, je le ferai. Le sacrifice de la foi, je le veux. Je veux être agréable à Dieu. Parce que je ne pense pas qu'on peut être plus heureux qu'en obéissant au Seigneur. Notre frère qui nous faisait chanter nous disait, mais est-ce que c'est une heure bénie, une heure en compagnie de Dieu ? Oui, mais Dieu ne veut pas qu'on ait une heure ponctuellement avec Dieu. C'est vrai que la réunion, c'est une heure ponctuellement avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut que tout à l'heure, demain, en me levant, de lundi, où ce sera peut-être plus difficile que dimanche, parce qu'il y a le travail, vous voyez ce que je veux dire ? Mais que ce soit le travail, que ce soit la détente, que ce soit le jour, la nuit, que je sois qu'avec des chrétiens, que je sois qu'avec des païens, je veux, moi aussi, en mon temps, marcher avec le Seigneur de tout mon cœur. Je veux être agréable à Dieu. Je ne sais pas le nombre d'années que je marcherai avec le Seigneur, mais quelles que soient les années qui me restent à vivre, je veux marcher avec Dieu. Je veux rester soucieux de connaître ce sacrifice. C'est important de rester attaché à Dieu. Oh Jésus, donne-moi la grâce d'apprécier, parce que l'encens, les graisses qui brûlent, tout ça, bon, pour nous, ça représente plus grand-chose. Mais spirituellement, quand même, ça représente ce temps de qualité quand nous sommes seuls et que nous offrons notre vie à Dieu dans le silence. Voilà, je voudrais vous encourager. On va fermer les yeux quelques instants. Parce qu'il y a certainement parmi nous quelqu'un qui dit, moi je veux construire, je veux marcher, je veux ce vrai sacrifice. Eh bien, c'est par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Alors, ce soir, y a-t-il quelqu'un qui dit, mais moi Seigneur, je veux cette foi jusqu'au bout. Je ne veux pas faire que des expériences qui servent à rien. Je veux l'expérience, avec un E majuscule, celle qui consiste à vivre et à marcher avec toi, dans cette communion intime, cette marche bénie jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Seigneur, tu nous as appelé ta parole pour que notre cœur soit rempli de foi, d'espérance, de paix, d'assurance, de confiance. Nous le voyons, tout nous montre que tu veux que nous gardions dans nos cœurs cette pleine espérance, parce que tu es un Dieu d'espérance, tu es un Dieu qui donne de l'assurance. Tu as donné cette assurance à Abel, à Enoch, à Noé et à tous ces hommes et femmes, parce qu'ils marchaient par la foi. Ô Seigneur, permets ce soir que nos cœurs soient attentifs à ta parole et que nous soyons soucieux d'avoir nos yeux fixés sur toi et de marcher avec toi pendant le temps qu'il nous reste à vivre. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.